On est rendu au chapitre 4 du livre d'Esther, lu déjà les premiers versets, mais j'aimerais recommencer au début du chapitre. Et Mardoché sut tout ce qui s'était fait. Et Mardoché déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres et sortit au milieu de la ville et poussa un cri grand et amer. Il vint jusque de pas permis d'entrer, vêtu d'un sac dans la porte du roi. Et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les Juifs, des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Beaucoup firent leur lit du sac et de la cendre. Et les jeunes filles d'Esther et ses eunuques vinrent et le lui rapportèrent. La reine fut dans une grande angoisse, et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardoché et pour lui faire ôter son sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas. Verset 9. Et Hatak vint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Et Esther dit à Hatak, et le chargea de dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à rentrer vers le roi ces 30 jours. » Et on rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché dit de répondre à Esther, « Ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs, car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Et Esther dit de répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même. Et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. » Et Mardoché s'en alla et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. Il arriva au 3e jour qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther, et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et Esther dit, « Si le roi le trouve bon, que le roi et Haman avec lui viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Qu'on cherche vite Haman pour faire ce qu'Esther a dit. » Et le roi et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et Esther répondit et dit, « Voici ma demande et ma requête. Si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande et de faire selon ma requête, que le roi et Haman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. » Et ce jour-là, Haman sortit joyeux et le cœur gai. Mais lorsque Haman vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Haman fut rempli de fureur contre Mardoché. Mais Haman se contint et rentra dans sa maison. Il envoya et fit venir ses amis et Zeresh, sa femme. Et Haman leur raconta la gloire de ses richesses et le nombre de ses fils et tout ce en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Haman dit, la reine Esther n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait, excepté moi. Et pour demain aussi, je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien aussi longtemps que je vois Mardoché le Juif assis à la porte du roi. Et Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et au matin parle au roi pour qu'on y fende Mardoché. Et va-t'en joyeux au festin avec le roi. Et la chose plut à Haman. Il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi. Il ordonna d'apporter le livre d'annales des chroniques. On les lut devant le roi. et on y trouvera écrit que Mardoché avait fait connaître à l'égard de Bigthan et de Térès, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché à cause de cela? Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent, on n'a rien fait pour lui. Et le roi dit, qui est dans la cour? Or, Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait dressé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent, voici Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Et Haman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? Et Haman pensa dans son cœur, à quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? Et Haman dit au roi, quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne royale, et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Et le roi dit à Haman, hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi. N'omets rien de tout ce que tu as dit. Et Haman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardoché, et le promena à cheval par les rues de la ville. Il criait devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Et Mardoché revint à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte à sa maison, triste et la tête couverte. Et Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. Comme il parlait encore avec lui, les eunuques du roi s'approchèrent et se hâtèrent de conduire Haman au festin qu'Esther avait préparé. On est maintenant vraiment au milieu du livre d'Esther. On a vu que le peuple de Dieu a été infidèle, donc je parle maintenant d'Israël, et que Dieu les a mis en captivité, mais par la grâce de Dieu, un reste était rentré à Jérusalem. Mais le livre d'Esther nous parle de ces Juifs qui sont restés dans le royaume des Perses, et nous voyons la main de Dieu, la providence de Dieu pour les protéger. Mais eux n'avaient aucun lien officiel avec Dieu. On ne trouve pas de sacrificateur dans ce livre-là. On ne trouve pas même de prière, comme dans le livre de Néhémie et d'Esdras. Il n'y a pas de prophète même pour présenter les pensées de Dieu. Mais quand même, dans tous ces détails de ce livre, on voit la main de Dieu, et surtout dans ces chapitres que nous avons lus ce soir. Nous avons vu aussi que ce livre-là nous donne des leçons pratiques pour nous-mêmes, aujourd'hui. Des leçons spirituelles et morales. Et nous aimerions voir aussi pour nous ce soir quelques leçons pratiques. Et en même temps, on voit que l'explication vraiment de ce livre-là est liée au résidu futur, où Dieu va donner de nouveau un témoignage sur cette terre, un témoignage pour lui-même. Dans les jours où l'Antichrist va s'agrandir, dans ces jours-là, Dieu va avoir un témoignage. Même avant ça. On a vu donc la dernière fois que dans le chapitre 2, Esther entre dans cette relation avec le roi. On a vu au début déjà que le roi est une image bien faible, il est vrai, mais quand même une image de Dieu lui-même. Parce qu'il représente Dieu, il a l'autorité que Dieu lui a confiée. Donc, le roi représente Dieu. On a vu aussi que Mardoché, le juif, nous parle d'une façon particulière de notre Seigneur Jésus. Et on a vu quelques détails là-dessus. Esther est introduite dans une relation avec Dieu, donc, dans ce livre-là. Ça parle donc de ce reste fidèle qui va avoir un lien spécial avec Dieu. Il y a d'autres livres, parmi les Juifs, ces livres-là sont dans un même volume, ça veut dire le livre de Ruth et Cantique des Cantiques, avec deux autres livres encore, avec Esther et encore deux autres livres, les Lamentations et encore un autre livre. Mais le point maintenant, c'est que dans Ruth Et dans le Cantique des Cantiques, on voit que ce résidu futur va être introduit dans une relation avec le Messie. Mardoché nous parle donc du Messie. Mais dans ce livre-là d'Esther, on ne trouve pas cette relation entre le résidu futur et leur Messie, ce qui est vrai quand même, et c'est ça qu'on trouve dans Ruth et dans Cantique des Cantiques. Mais ici, on voit que Dieu rétablira cette relation entre ce résidu et lui-même. Dieu avait une femme, une épouse dans l'Ancien Testament. Elle était infidèle. Et dans le futur, on va voir que Dieu va rétablir cette relation d'amour entre ce résidu qui représente son peuple terrestre et lui-même. Et c'est ça qu'on trouve dans Esther. Elle n'a aucun droit, elle n'a pas de mérite, c'est ça qu'on a vu de la dernière fois dans le chapitre 2, mais elle entre dans une relation définitive avec le roi. Mais elle doit encore apprendre d'autres choses. On a vu donc les leçons en rapport avec cela, ou comment elle entre dans cette relation avec le roi, qui nous parle donc de Dieu. Et on a vu dans le chapitre 3 que dans le gouvernement de Dieu et dans les voies de Dieu qui sont plus hautes que nos voies, Dieu permet qu'un homme, un ennemi du peuple, s'agrandisse. Et cet ennemi, on a vu, il était déjà lié à un peuple ennemi de longue date. C'est ça qu'on trouve dans Esther 3 au début. Et tout ce complot, tout ce plan pour maintenant se débarrasser de Mardoché. Mardoché, il nous parle d'une façon particulière du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui était fidèle pour maintenir les droits de Dieu. Et Mardoché, on peut vraiment admirer sa fidélité. Comment il était ferme pour maintenir les droits de Dieu, les droits du roi, on a vu ça à la fin du chapitre 2, mais aussi comment il est ferme pour ne pas se prosterner devant cet homme méchant. Amen. Donc, on voit la fidélité de Mardoché. Mais tout cela cause cette fureur d'Aman contre lui et contre tout son peuple. Et on a vu dans le chapitre 3, verset 6, que les Juifs sont appelés le peuple de Mardoché. Ça parle donc de ce lien spécial entre le Messie et son peuple. Mais pour nous aussi, le Seigneur Jésus a un lien spécial avec nous présentement. Donc on peut toujours voir ces leçons pratiques pour nous aussi. On pense à ce reste futur qui aura ce lien avec le Messie et avec Dieu, mais on peut l'appliquer aussi pour nous. Parce que Dieu aime avoir un témoignage maintenant. Et on trouve, par exemple, dans Apocalypse 3, Philadelphie, on voit là où Dieu et le Seigneur Jésus ont un témoignage dans ce monde, au milieu de la chrétienté. Et d'une telle façon, Dieu va avoir un témoignage fidèle dans les jours à venir. Mais Dieu veut avoir aussi un témoignage fidèle aujourd'hui. Et c'est ouvert à vous et à moi pour être fidèle. Comme Mardoché était fidèle, comme Esther était fidèle, pour être instruit dans les voies de Dieu, à l'école de Dieu, c'est ouvert pour vous et moi d'avoir une part dans ce témoignage pour Dieu. Mais ça va en même temps susciter, pour ainsi dire, la fureur, la haine de l'ennemi. Si nous sommes fidèles, par la grâce de Dieu, ça va causer en même temps les attaques de l'ennemi. Et maintenant, on arrive donc au début du chapitre 4. On voit là, d'abord, Mardoché comme une image du Seigneur Jésus, comme celui qui a souffert, qui était seul dans ses souffrances. On voit ici, dans chapitre 4, verset 1er, « Et Mardoché déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres et sortit au milieu de la ville et poussa un cri grand et amer. » Ça nous parle d'abord des souffrances du Seigneur Jésus, où il était seul dans ses souffrances. Je voulais lire un verset dans Hébreux 5, on a lu ce soir dans Hébreux 4, mais maintenant un verset dans Hébreux 5, verset 7, où nous voyons comment le Seigneur Jésus a souffert. Et c'est remarquable, pas seulement dans ses heures sombres à la croix, mais on voit dans Hébreux 7 aussi, en général, qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a pris l'obéissance. On voit ici, je pense surtout les souffrances du Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané, où il a passé à travers ses souffrances par anticipation. On voit donc ces souffrances dans Hébreux 5, verset 7. Ces grands cris aussi. Ça donne donc le parallèle avec ce verset dans le livre d'Esther. où Mardoché poussait un cri grand et amer. On peut aussi penser au cri que le Seigneur Jésus a poussé à la croix dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Donc, ses souffrances dans le jardin de Gethsémané et sur la croix. Mais maintenant, il est important de voir l'intention de l'Esprit pour qu'il lie ces exercices de Mardoché maintenant avec le reste fidèle. Et puis, on voit qu'au début, Esther n'a rien compris de ça. Elle ne l'a pas accepté même. On voit donc d'un côté que Mardoché, lui, il a compris la situation. Il voit comment le peuple de Dieu est attaqué. Et puis il s'identifie avec ce peuple. Et il crie avec un cri grand et amer. Mais on a lu aussi que Esther, verset 4, elle était dans une grande angoisse. Mais elle n'a pas compris vraiment ses souffrances. Verset 4 au milieu. Elle envoya des vêtements pour vêtir Mardoché et pour lui faire ôter son sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas. On pense ici aussi à ces quelques disciples qui étaient autour du Seigneur Jésus dans sa vie ici-bas. Ils n'ont pas compris ses souffrances. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé de ses souffrances, ils n'ont pas compris. On peut le dire clairement dans les évangiles. On voit chaque fois de nouveau que là où le Seigneur a parlé de ses souffrances, ils n'ont pas compris. Absolument pas. C'est la même pensée. On voit donc qu'ils n'ont aucune compréhension pour un Messie souffrant. Et c'est exactement la même chose avec les Juifs aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que le Messie devrait souffrir. Ils ne comprennent pas Isaïe 53. Ils pensent qu'eux sont ces serviteurs qui souffrent. Mais ils ne comprennent pas que le Messie devrait souffrir. Maintenant, il est important de comprendre la différence entre les souffrances expiatoires où le Seigneur Jésus était absolument seul, comme le psaume 22. Là, le Seigneur Jésus était absolument seul. Mais le Seigneur Jésus a pris aussi le fardeau de son peuple sur ses épaules, pour ainsi dire. Et à cause de ça, le Seigneur a souffert. On peut le lire dans une brochure que j'aimerais recommander du frère Darby sur les souffrances de Christ. Et là, on voit vraiment la différence entre tous ces aspects de ces souffrances. On peut le lire dans 1 Pierre 1, où Pierre parle des souffrances, au pluriel, du Seigneur Jésus. Là, on voit qu'il y a des distinctions importantes entre les souffrances du Seigneur. Et dans ce chapitre-là, on voit que le Seigneur Jésus, comme présenté par ce type de Mardoché, a pris sur lui, il y a presque 2000 ans, les souffrances futures du peuple d'Israël. Il s'est identifié déjà là avec les souffrances futures du reste fidèle. Mais on voit, quoique ce lien existe maintenant entre Dieu et ce reste fidèle, qu'eux ne connaissent pas encore vraiment les souffrances du Messie. Ils ne comprennent pas encore ces souffrances. Dieu permet cette grande tribulation qui va venir sur Israël et qui est encore future dans ce chapitre-là aussi, pour les purifier. Mais avant que Dieu permette donc que ce temps arrive, il les élève, pour ainsi dire. On a vu dans le chapitre 2 cette éducation à l'école de Dieu. Maintenant, Esther a besoin encore d'une autre éducation pour être prêt pour présenter sa requête devant l'homme. Donc on a vu dans le chapitre 2 ses préparations pour qu'elle entre dans cette relation avec le roi. Maintenant, c'est l'Esprit qui va la préparer pour qu'elle puisse faire ses requêtes devant le roi. Ça, c'est le grand sujet maintenant. Et puis le reste fidèle aussi va avoir cette éducation par l'Esprit de Dieu pour être préparé de s'approcher de Dieu. On a lu ce soir, Hébreux 4, on aura toute liberté de nous approcher de Dieu. Mais on voit ici que Esther n'a absolument pas encore cette liberté de s'approcher du roi sur la base de la grâce. Donc le point que j'aimerais souligner, d'abord cette incompréhension, elle n'a pas compris ses souffrances de Mardoché. Ce sera le cas aussi pour le reste fidèle au début de leur histoire future. Ils doivent donc réaliser que le Messie a pris leur souffrance sur lui-même. Un verset à lire et relire, c'est Ésaïe 63, verset 9, où le prophète dit « Dans toute leur souffrance, il a souffert. » Quelque chose comme ça. « Toute la douleur, il a été aussi en douleur. » Donc là, on voit ce principe-là que le Seigneur s'est identifié avec les souffrances de son peuple. Mais dans les psaumes 42, donc le deuxième livre des psaumes, on voit que ce reste fidèle sera en détresse, comme on va le voir dans chapitre 4. Mais dans cette histoire future, l'Esprit va leur présenter la beauté du roi. Dans le psaume 45, on le voit. Donc d'abord, ils sont dans les souffrances, Dieu permet ces tribulations, mais étant dans ces tribulations, Dieu va leur présenter la beauté du roi. Et ils seront fortifiés pour continuer sur les grandes lignes. Et en même temps, on va voir que Dieu va les purifier dans cette grande tribulation. Il y a donc un lien entre les souffrances que le Seigneur Jésus a subies il y a presque 2000 ans et ses souffrances futures pour le reste fidèle. Il y a un lien. C'est ça qui est important à comprendre, que le Seigneur, en souffrant ici-bas, s'est identifié déjà avec ses souffrances futures du reste fidèle. Maintenant, on voit donc que dans le verset 5 de notre chapitre, Esther a envoyé Attac. Attac veut dire « Pourquoi tu me frappes ?» Cette même pensée, l'incompréhension. Mais en même temps, on va voir que par les soins de Dieu, ce reste fidèle sera instruit. Et on voit ici d'un côté Mardoché, qui va donner les détails, mais aussi Attac remplit ce service pour instruire Esther en rapport avec les souffrances du Messie. Il faut donc que Esther réalise à un moment donné que ce que Mardoché a subi va être son sort aussi. Et il faut qu'elle se réalise qu'elle est dans la même situation. Et le reste fidèle aussi, dans le futur, va réaliser à un moment donné que l'Antichrist et le chef de l'Empire romain, les deux ensemble, seront contre eux. Comme dans les jours du Seigneur Jésus, Hérode et aussi Ponce Pilate sont devenus des amis contre le Messie. Donc, dans le futur, ce sera une même situation. Les chefs, les dirigeants du peuple juif, ensemble avec les chefs de l'Empire romain, vont se mettre ensemble contre le reste fidèle. Donc, elle doit réaliser maintenant cette situation pénible et voir la solution. C'est un long chemin, parce qu'elle doit apprendre que la solution viendra de Dieu lui-même. C'est pour nous donc aussi une leçon à apprendre. Sur là-bas, on doit apprendre d'abord la gravité des souffrances de notre Seigneur Jésus. Même les souffrances que nous passons à travers, sont des souffrances avec lesquelles le Seigneur s'est identifié. Donc maintenant, on est arrivé au verset 8, à la fin du verset 8. Mardoché a informé Esther sur la situation afin qu'elle réalise sa situation et puis qu'elle va souffrir à cause de cette attaque d'Aman si elle ne prie pas. Elle va même être tuée à cause de ce décret du roi. Puis on a vu donc déjà la dernière fois, il semble être très difficile de comprendre que le roi permet même un tel décret qui signifie la fin du peuple juif et même la fin de la reine. Mais on voit que Dieu est au-dessus de toutes choses, mais il faut que Esther trouve ce chemin pour s'approcher du roi, donc s'approcher de Dieu pour trouver la solution, le remède. Et puis, c'est un long chemin pour beaucoup d'âmes trouver cet remède vraiment, à se remettre à Dieu pour supplier Dieu. Ça, c'est le point maintenant. On va essayer à comprendre ce chemin en détail. Dans le verset 9, on voit donc la réponse de Mardoché. Et puis dans le verset 11, Mardoché dit « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi, maintenant c'est la réponse d'Esther, je m'excuse, sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort. » Et cela nous parle aussi d'un sens général de la loi. Si on se place sur la base de la loi, on est sous la malédiction et on sera mis à mort. Si une âme qui est née de nouveau même se place sur la base de la loi, ce sera la mort spirituelle. Donc c'est important pour nous aussi de réaliser qu'on doit se placer sur la base de la grâce. On doit s'approcher du roi, de Dieu, sur la base de la grâce. Donc, mais c'est d'abord nécessaire de réaliser que sur la base de la loi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. sur la base de la loi, il y a la mort, il y a la malédiction. Et on voit dans Romains 7 aussi ce long chemin d'une âme exercée, qui est née de nouveau, mais qui veut s'améliorer encore soi-même, qui veut encore trouver de remèdes contre tout ce mal, qui ne s'adresse pas encore à Dieu, vraiment. Donc, la leçon ici, dans le verset 11, c'est qu'il n'y a pas d'accès vraiment de Dieu. Pour nous, par la grâce de Dieu, nous connaissons cet accès. Romains 5, versets 1 et 2, nous voyons cette relation de paix avec Dieu et ce libre accès. Ce soir, nous avons lu dans Hébreux 4 de ce libre accès. On trouve dans Éphésiens 2 aussi, c'est la position chrétienne d'avoir ce libre accès. Éphésiens 2, verset 18, par l'Esprit Saint. Dans Hébreux 10 aussi, on voit ce nouveau chemin pour nous approcher de Dieu. Donc, c'est le privilège chrétien vraiment de s'approcher de Dieu. Mais si on se place sur la base de la loi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On est loin de Dieu, très loin de Dieu. Il y a une grande distance entre l'âme et Dieu si on se place sur la base de la loi. Là, il n'y a aucune communion entre l'âme et Dieu. Et ça, c'est important. Puis, le reste fidèle va apprendre cette leçon. Et pour nous, aujourd'hui, on doit apprendre cette leçon aussi. Maintenant, on voit donc que Mardoché répond de nouveau dans le verset 13, et puis c'est maintenant encore un nouvel élément, c'est l'amour pour le peuple de Dieu. Si on aime les frères, on est prêt même à donner sa vie. 1 Jean 3, verset 16, nous voyons que on donne sa vie pour les frères, par amour. Puis c'est ça que Esther doit apprendre aussi, cette attitude de se sacrifier elle-même. Et on voit maintenant, par la grâce de Dieu, qu'elle est instruite. Mardoché donne encore quelques avertissements dans le verset 14. Si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Donc Mardoché dépend de Dieu. Ce n'est pas mentionné ici, parce que dans ce livre-là, on ne voit pas cette relation établie entre le peuple et Dieu. Mais sa foi dit que Dieu va donner une autre solution si Esther n'est pas fidèle. Dans les autres livres, comme j'ai mentionné, le livre de Ruth, chapitre 3, et aussi Cantique des Cantiques, que là, l'âme passe à travers des exercices semblables pour être libérée de soi-même, pour être libérée de cette malédiction de la loi, pour entrer dans cette liberté, donc pour avoir cette hardiesse de s'approcher de Dieu. On voit maintenant que Esther arrive à ce point-là, qu'elle est libre d'elle-même, pour ainsi dire. Et puis, elle dit, maintenant, dans le verset 15, et Esther dit de répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. » Donc, ici, on voit cette attitude, même de mettre de côté des choses légitimes, comme le repas, comme la nourriture, pour trouver vraiment l'aide de la part de Dieu. C'est donc un exercice très profond, parce qu'elle a jeûné avec ses jeunes filles, et en communion donc avec tous les autres juifs pendant 3 nuits et jours. Donc ça parle vraiment de cet exercice très profond. Avant qu'elle s'approche du roi, elle se prépare vraiment. Mais elle réalise maintenant qu'elle a une autre base, pas la loi comme base, parce que là, elle n'a aucun droit pour s'approcher du roi, mais elle se place sur la base de la grâce souveraine. Et ça, c'est un grand changement. Et puis, pour le reste fidèle, ce sera un grand changement. Mais pour nous, il faut apprendre ça aussi. Que sur la base de nos propres efforts, ou sur la base de la loi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et comme j'ai dit, on voit ce développement, par exemple, dans Romains 7, une âme qui passe ce long chemin pour arriver à cette liberté, cette hardiesse. On le trouve aussi dans d'autres passages dans la parole, aussi en rapport avec ce développement futur pour le reste fidèle. Dans Zacharie, à un moment donné, ils connaîtront vraiment cette liberté pour s'approcher de Dieu. Mais il faut qu'elle soit au bout d'elle-même. Voilà une leçon pratique pour nous. Dieu permet donc, comme on voit dans ce chapitre-là, que les choses se développent en mal, vraiment, jusqu'à un point où on dirait, mais qu'est-ce que Dieu peut faire encore? C'est vraiment la fin. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et puis, on arrive aussi dans cette histoire-là, à ce point-là, où on pense, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien. Et puis, elle dit maintenant, et si je péris, je périrai. Se sacrifie elle-même, pour ainsi dire. c'est la bonne attitude, de se remettre entièrement à Dieu, pas de réserver rien pour nous-mêmes. Je pense à Jacob, dans le livre de la Genèse, on voit des exercices semblables. Il est arrivé à ce point-là où il se remet entièrement entre les mains de Dieu. Et ça, c'est tellement important pour nos âmes aussi, d'arriver à ce point-là qu'on se remet entièrement à Dieu, sans réserve. Et c'est donc un combat, comme on voit ici, un long combat pour arriver à ce point-là. Mais c'est très béni, parce que maintenant on voit que Esther s'est revêtue dans son vêtement royal, chapitre 5, le premier verset. Et ça, c'est donc un grand changement. Vous voyez, il arriva au troisième jour. Le troisième jour nous parle de la résurrection. Elle se place sur une nouvelle base, vraiment. Au lieu d'être occupée d'elle-même, de ses limites et de ses raisonnements, elle se place maintenant sur une nouvelle base. Ça, c'est pour nous très important, de nous placer sur la base de la résurrection. Là, tout change. C'est Romains 7 et Romains 8, la même différence. Et puis, on voit qu'elle s'est revêtue de son vêtement royal. Si on s'approche de Dieu et on est revêtu dans ce vêtement royal que Dieu lui-même nous a donné, est-ce que Dieu pourrait nous refuser? Est-ce que Dieu pourrait nous refuser vraiment de nous approcher de lui? C'est Dieu qui nous donne ce vêtement. On pense à ces vêtements de la justice dans Ésaïe 61, aussi à la façon de laquelle Dieu nous a acceptés dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6. C'est notre vêtement. Donc si nous réalisons cette nouvelle position que nous avons en Christ, dans ce cas-là, nous avons la liberté de nous adresser à Dieu. Il faut donc réaliser la position que Dieu nous a donnée en Christ. Et dans cette façon-là, on se revêt, on est revêtu de ce vêtement royal. On pense aussi à Luc 15, ce fils prodigue qui était revêtu dans ce vêtement, le meilleur vêtement que le Père lui avait réservé. Donc si on s'approche de Dieu dans ce vêtement que Dieu nous a donné, il ne nous refusera jamais. On n'entre pas dans sa présence sur la base de notre propre justice, mais on entre avec tout ce qu'il nous a donné en Christ. Dans ce sens-là, nous sommes aussi des sacrificateurs royaux. Hein, 1 Pierre 2, nous voyons que nous sommes revêtus dans ce vêtement royal. Avec ce vêtement royal. C'est par la grâce de Dieu. Donc, il nous prépare. Et si nous acceptons cela, Dieu va nous accepter aussi. Donc, Esther est vue ici sur cette nouvelle base, sur la base de la résurrection, sur la base de l'ordre accompli du Seigneur Jésus, et là, le roi va écouter. Verset 2. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Quelle joie pour le cœur du roi de voir son épouse d'une telle façon. Quelle joie ce sera pour le cœur de Dieu d'avoir un reste fidèle ici-bas qui va s'approcher de lui sur cette base de la grâce, vraiment. Mais quelle joie pour Dieu aujourd'hui de voir un reste fidèle qui s'approche de lui vraiment, qui n'est pas lié au mal, qui n'est pas sous l'influence des attaques d'Aman. Il ne faut pas oublier que la plupart de la chrétienté est influencée par les ruses d'Aman, du diable, par ses doctrines diaboliques. Ou bien que beaucoup de chrétiens, vraiment, ceux qui sont nés de nouveau, se placent sur la base de la loi. Aucune communion avec Dieu. Donc, quelle joie pour le cœur de Dieu si aujourd'hui, il y a un reste qui s'approche de lui sur cette base nouvelle que Dieu lui-même nous a donnée. Et puis, à cause de ça, c'est le roi qui donne maintenant ce sceptre. Et elle touche le bout du sceptre. Verset 2 à la fin. Le roi tendit Esther le sceptre. On voit donc que la condition morale d'Esther est en relation avec la pensée du roi. Ça, c'est important. C'est pas seulement que Dieu nous donne tout ça en Christ, mais il y a une âme ici qui a réalisé ça par la foi, qui est fidèle. Donc, elle s'approche du roi sur la base de la grâce souveraine, mais en même temps, le roi voit quelque chose en elle qui est agréable pour lui. Est-ce que Dieu voit quelque chose en nous par sa grâce, qui est agréable en lui, pour lui. Et puis, c'est le sceptre d'or, donc, en rapport avec la gloire de Dieu. Si on peut toucher ce sceptre d'or, on est donc en rapport avec les pensées de Dieu, avec la gloire de Dieu. Quelle pensée? Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. On voit ici cette hardiesse, cette liberté, maintenant, Au début, elle n'avait aucune liberté. Maintenant, elle a cette liberté, et c'est tout en rapport avec la justice et avec la gloire de Dieu. Maintenant, on voit donc cette question, le roi donne réponse favorable. Que veux-tu, reine Esther, et quelle est ta requête? On voit maintenant qu'il suggère même qu'il donne la moitié du royaume. Et si on compare ça avec nous, c'est quand même une différence, parce que par la grâce de Dieu, nous avons toutes choses. Dans Romains 8, à la fin, nous voyons que Dieu nous a donné toutes choses, toutes choses. C'est la différence avec Esther. Dieu nous a donné toutes choses. Il n'a rien réservé. Et sur la base de la compassion de Dieu, dans le livre de l'Épître aux Romains, on voit comment une âme est établie dans cette relation avec Dieu. Et puis sur la base de la miséricorde de Dieu, on voit donc qu'on peut présenter nos requêtes devant Dieu. Romains 12, pour connaître la volonté de Dieu. Elle invite maintenant le roi pour son festin. Ça, c'est très touchant de voir, verset 4 à la fin. Si le roi le trouve bon, que le roi et Haman avec lui viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. Il y a donc, d'un côté, cet homme méchant, Haman, qui sera exposé la deuxième fois. Il y a cette sagesse d'Esther de ne pas encore demander tout de suite ce qu'elle voulait demander, parce qu'elle voulait le faire dans la présence d'Haman. C'est bien sage. Mais aussi, ce point que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'elle avait préparé un festin pour le roi. On se rappelle maintenant cette première reine qui ne voulait pas venir dans la présence du roi, Vasti. Elle avait son repas, son festin pour elle-même, avec les autres femmes. Mais ici, on voit donc Esther qui prépare quelque chose pour le roi lui-même. Et ça, c'est aussi très précieux pour le cœur de Dieu. Si nous sommes prêts à préparer quelque chose qui a de la valeur pour lui. Maintenant, verset 6, donc, le roi donne cette occasion à Esther de demander sa demande, mais elle demande simplement que le roi revienne le lendemain. Et puis on se demande, mais pourquoi? Parce que par ce délai, la vie de Mardoché est mise en danger, comme on va voir dans la suite du chapitre. Pourquoi ce délai? Mais je pense que c'est aussi la direction de Dieu. Ça arrive aussi quelquefois dans notre vie, on est vraiment au bout, et quand même on doit encore attendre. Quand même! Pourquoi? Parce que Dieu veut être glorifié. On voit cette pensée-là dans Jean 11, où Lazare était malade, puis mort, le Seigneur a attendu. Mais le résultat était qu'il était glorifié, et que Dieu était glorifié. Et par ce délai d'un jour, on va voir que Mardoché est glorifié, Dieu est glorifié. Donc c'était sous la direction de Dieu qu'elle a attendu encore un jour. Et c'est aussi une leçon pour nous. Souvent, on veut précipiter, on veut régler la chose tout de suite. Mais on voit, par la sagesse de Dieu, il était dirigé par la sagesse de Dieu d'attendre encore un jour. Et puis on voit maintenant le climax vraiment de cette histoire-là, parce que par ce délai, Haman était encore enragé contre Mardoché, puis on voit que la vie de Mardoché était mise en danger. Maintenant, à la fin de ce chapitre donc 5, on voit le plan de Mardoché de tuer maintenant Mardoché. Dans le verset 9, on voit donc de nouveau cette fidélité de Mardoché, comme on l'a vu dans le chapitre 3. On voit ici la fierté, l'orgueil d'Haman. Verset 11, Haman leur raconta la gloire de ses richesses. Et on se rappelle ce verset dans les Proverbes que la chute vient, donc l'orgueil vient avant la chute. Donc on voit ici cet orgueil juste avant la chute. Il parle du nombre de ses fils. On pense aussi au diable qui a plusieurs fils, beaucoup de fils. Dans Jean 8, le Seigneur Jésus le mentionne même comme le père des mensonges qui a beaucoup de fils. Et puis, il est tellement fier, il parle aussi de ce en quoi le roi l'avait agrandi, il l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Mais dans le verset 13, nous voyons donc que tout cela ne lui sert de rien aussi longtemps que je vois Mardoché. On voit ici la colère vraiment de Satan contre le Seigneur Jésus. On peut s'imaginer la colère que Satan a eue contre le Seigneur. Il voulait se débarrasser du Seigneur. Et là, on voit donc un parallèle, une parallèle, et en même temps un contraste. Le Seigneur Jésus, on a préparé un bois pour lui. Il était là, littéralement. Le Seigneur Jésus a subi ce jugement-là. Mais là, on voit d'un côté, c'était de la part de l'ennemi qui avait préparé tout ça. On a vu la dernière fois dans Acte 2, verset 23, c'était donc par le conseil de Dieu, d'un côté, mais par le peuple infidèle de notre côté. Le peuple infidèle qui était donc dirigé par Satan. Mais ici, on voit donc Mardoché n'était pas là, Christ, lui, oui, il était là. Donc, un contraste en même temps. Mais le bois était préparé par Haman, et puis maintenant, il ne pouvait pas dormir, sans doute. Parce qu'on voit dans le chapitre 6 qu'il était là le lendemain de bonne heure. Et c'est remarquable. Je pense que Esther n'a pas pu dormir non plus dans cette nuit-là. Elle avait jeûné 3 jours et 3 nuits. Peut-être Mardoché n'a pas dormi non plus, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, que le roi n'a pas dormi. Ça, c'est remarquable. On peut comprendre pourquoi Haman n'a pas dormi. Peut-être Haman a vu déjà Mardoché pendu à ce bois. Peut-être qu'il s'est imaginé ça déjà. Il s'est réjoui, cette pensée-là. Puis il s'est rendu au palais de bonne heure. Mais ce qui est remarquable, que le roi n'a pas pu dormir. Et si on pense de nouveau à Dieu lui-même, je parle avec révérence. Est-ce que Dieu a pu dormir lorsque son fils a souffert là? Impossible. Et puis on voit ici que, mais c'est en même temps donc la providence de Dieu, comment Dieu a organisé, arrangé les choses afin que le roi ne dorme pas. On voit la main providentielle de Dieu vraiment, qu'il demande maintenant ce livre d'annales des chroniques. Il pourrait demander d'autres choses, mais il n'a pas fait. Il a demandé exactement ce livre-là. C'est remarquable. Et Dieu a dirigé ce serviteur pour lire exactement cette histoire-là qu'on avait lue déjà dans le chapitre 2, verset 23. Donc, c'est tout réglé de Dieu. C'est maintenant Dieu qui prenne les choses en main. Mais est-ce que je peux suggérer quelque chose? C'était sur la base des prières. On ne voit pas les prières littéralement, ce n'est pas mentionné, mais c'est sur la base cette humiliation d'Esther. Et ces prières, c'est jeûne que Dieu intervient maintenant. Ça, c'est une leçon pour nous aussi. Il y a une pensée qui dit que la prière met en mouvement le bras de Dieu. La prière met en mouvement le ciel. Donc, quelle importance pour ce jeûne, pour ces prières, pour que le ciel soit mis en mouvement pour les saints. Quelle pensée! Puis on voit ici comment Dieu va agir. Dieu agit d'abord providentiellement, comme on a vu dans ces premiers versets. Et une pensée touchante, vraiment, dans le verset 3. Le roi demande, « Quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché à cause de cela ?» Et le serviteur du roi qui le servait dire, « On n'a rien fait pour lui. » On pense au Seigneur Jésus, dans Daniel 9, on le lit. Le Seigneur a souffert, le Messie, de nouveau, là on voit le Messie. Et qu'est-ce que la parole dit dans Daniel 9, à la fin du chapitre 9, « Il n'aura rien, ou il ne sera pas pour lui. » Mais c'est la même pensée. On n'a rien fait pour lui. Rien, absolument rien. Un homme qui a fait tant de bien pour honorer Dieu, pour protéger, donc pour maintenir les droits du roi, les droits de Dieu, qui était tellement bon, on n'a rien fait pour lui. C'est encore aujourd'hui le cas. Si on demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que le monde a fait pour honorer le Seigneur Jésus, on n'a rien fait. Mais maintenant, on voit que Dieu a fait quelque chose. Et ça, c'est le grand sujet du chapitre 6. Et pour expliquer cela, j'aimerais juste lire un verset dans Jean 13, verset 31. Dans Jean 13, verset 31, nous lisons, après que Judas était parti, lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. » Et incontinent, il le glorifiera. Incontinent, il le glorifiera. La pensée est ici que Mardoché avait honoré le roi. Il avait donc glorifié le roi dans ce sens-là, par ses actions, par sa vie. Maintenant, le roi va l'honorer. Le roi va le glorifier. Vous voyez, la même pensée qu'on trouve dans Jean 13, verset 31. Le Seigneur Jésus avait glorifié Dieu. C'est maintenant Dieu qui le glorifie. Et donc le roi est prêt pour glorifier Mardoché. Et ce moment-là, où le roi se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour honorer Mardoché, ce moment-là, Haman est là. Le plus grand ennemi de Dieu, le plus grand ennemi du peuple de Dieu. Et j'ose dire aussi, au fond, un ennemi du roi même, parce qu'il cherchait sa propre gloire. Il ne cherchait pas vraiment les intérêts du roi, absolument pas, mais il cherchait sa propre gloire. Et on le voit ici dans le verset 6 et suivant. Le roi demande, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? Et Haman pensa dans son cœur, à quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? Il y avait un homme dans le Nouveau Testament, on aimerait maintenant voir le parallèle entre Haman et Paul avant sa conversion. Un ennemi de Dieu, il pensait qu'il servait Dieu, comme Haman aussi. Il pensait qu'il était en faveur avec le roi, qu'il servait le roi, mais au fond, il était un ennemi. Et c'est maintenant cet homme-là, donc un ennemi, duquel Dieu se sert pour honorer Mardoché. Et on le voit dans le Nouveau Testament, Dieu s'est servi d'un ennemi, l'apôtre Paul. Il était un ennemi de Dieu, un ennemi du peuple de Dieu, un ennemi de Mardoché, un ennemi du Messie. Et Dieu s'est servi exactement de lui pour le glorifier. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est l'ironie de Dieu, pour ainsi dire. Que Dieu peut se servir d'un ennemi pour se glorifier, pour glorifier le Messie. L'ennemi le pire du Messie l'a glorifié. Et puis, ici donc, on voit comment Dieu a tout entre ses mains. C'est l'ironie de Dieu. Comment Dieu peut organiser ces choses-là. C'est vraiment, humainement parlant, on est vraiment étonné de voir ça. Et puis, on voit donc l'orgueil de nouveau d'Haman. On voit cet orgueil aussi en rapport avec Satan lui-même. Je mentionne simplement Ésaïe 13 et Ézéchiel 28. On voit que l'orgueil de Satan a causé sa chute. Et l'orgueil d'Haman a causé sa chute aussi, qu'on va voir dans le chapitre 7. Donc, il doit maintenant honorer l'homme dans lequel Dieu a trouvé son bon plaisir. Quelle pensée ? Dieu a trouvé son bon plaisir dans le Seigneur Jésus. Il l'a honoré. Et vous voyez, avant que, ça c'est maintenant un point important à comprendre, à la fin d'Esther, on voit l'honneur public de Mardoché. Et au début du millénium, on va voir que le Seigneur Jésus va avoir cet honneur public pour régner sur ce monde. Mais Dieu donne maintenant un témoignage de sa gloire. Ça, c'est la différence. Le chapitre 6 nous donne le témoignage de la gloire du Seigneur. Tandis qu'à la fin d'Esther, on voit sa gloire publique, son règne public. Mais Dieu donne maintenant un témoignage de la gloire du Messie. Notre Seigneur Jésus, il est à la droite de Dieu. Et Dieu donne maintenant un témoignage spécial. Et c'est ça qu'on trouve dans le ministère de Paul. Paul, qui était donc cet ennemi, lui, il a été changé. Là, on voit vraiment un changement de cœur. Dans Haman, on ne voit pas un changement de cœur. Mais parallèle, c'est donc que Dieu s'est servi d'un ennemi pour donner ce témoignage de la gloire de Mardoché, de la gloire du Messie. Mais dans Paul, on voit aussi un changement intérieur. Mais Dieu s'est servi donc de cet ennemi pour rendre témoignage de la gloire que le Seigneur Jésus a maintenant à la droite de Dieu. Et ça, c'est le point ici. Dieu glorifie tout de suite Mardoché, tout de suite, avant qu'il règne publiquement, avant que cette gloire soit vue partout. Et par ce témoignage, on voit déjà maintenant cette gloire de Mardoché, du Seigneur Jésus. Et par le ministère de Paul, nous connaissons déjà cette gloire du Seigneur Jésus qu'il a présentement, avant que la grande tribulation vienne. Vous voyez, parce qu'ici dans le chapitre 6, on est encore avant la grande tribulation. On a déjà ce témoignage de la part de Dieu, de la gloire du Messie. Et là, on voit donc comment Haman était humilié, et puis c'est juste avant sa chute. Et on va voir donc la prochaine fois, Dieu voulant, comment Dieu est intervenu. Et là, on va voir que Esther a intercédé de nouveau. On voit la solution que Dieu donne. Mais plus tard, seulement dans le chapitre 8, on va voir qu'Esther est entrée une nouvelle fois, une seconde fois. Elle s'est approchée du roi pour parler maintenant pour le bien de son peuple. Donc, l'importance qu'on a vu ce soir, c'est d'apprendre cette liberté de s'approcher de Dieu sur la base de la grâce souveraine. Ça, c'est vraiment nécessaire que nous aussi ayons cet enseignement, qu'on se place sur cette nouvelle base de la résurrection du Seigneur, sur la grâce souveraine, et aussi qu'on soit revêtu dans ces vêtements que Dieu nous a donnés, où il nous accepte vraiment. Ce sont des leçons. Et en même temps, cette providence de Dieu, comment il a arrangé tout pour glorifier Mardoché et en même temps pour humilier Haman, comment Dieu s'est servi de l'ennemi vraiment de Mardoché pour l'honorer. Et il faut donc vraiment comprendre que Dieu donne maintenant un témoignage de la gloire du Seigneur Jésus. Dieu attend encore, on va voir donc la grande tribulation est encore future, le règne du Seigneur Jésus est encore futur, mais Dieu lui a donné ce témoignage de sa gloire. Et par la grâce de Dieu, c'est nous qui avons accepté ce témoignage, qui, par le ministère de Paul, ont connu maintenant cette gloire de notre Messie, de notre Seigneur Jésus. C'est un grand privilège de le connaître d'une telle façon avant que la grande tribulation vienne. Mais la leçon importante en tout ça, c'est aussi de prier, de mettre nos requêtes devant Dieu et de nous confier entièrement en lui. Où nous sommes au bout, où nous ne pouvons rien faire de plus, c'est là où Dieu va commencer à travailler. Donc le Seigneur nous aide à réviser ces leçons pratiques pour nous-mêmes et aussi à reméditer ces passages pour mieux comprendre aussi l'histoire future du reste fidèle du peuple d'Israël. Et puis, la prochaine fois, Dieu voulant, on va voir comment Dieu donne vraiment la solution aussi en rapport avec cette persécution future.